Christian Gollier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur général de la très réputée Toulouse School of Economics, co-auteur des 4e et 5e rapports du GIEC. Vous êtes très connu pour vos travaux en économie de l'environnement. Vous venez de publier en poche chez Alpha le climat après la fin du mois sur le coût financier de la transition écologique. Alors, ces fuites spectaculaires de gaz dans la Baltique provoquées par les sabotages des gazoducs sous-marins Nord Stream 1 et 2, qu'est-ce que ça vous inspire à vous ?
Ah ben, ça veut dire qu'il va falloir beaucoup plus rapidement passer à la sobriété dans un laps de temps qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait en tête pour la transition énergétique liée au changement climatique. Là, on parlait de dizaines d'années, là, on parle de dizaines de mois.
Mais cette énergie fossile, peu coûteuse, facilement transportable et stockable, sur laquelle l'Occident, depuis 2 siècles, a fondé sa prospérité, nous devons y renoncer alors que les sources d'énergie alternatives dont nous disposons pour le moment sont beaucoup plus coûteuses, beaucoup plus difficiles à stocker, à transporter, donc moins pratiques et moins efficaces ?
Clairement, étant donné les technologies disponibles, produire de l'énergie décarbonée va coûter de l'argent, va coûter plus d'argent. Oublions quelques instants la crise énergétique actuelle. La situation va être compliquée dans les années à venir si des ménages, si des entreprises ne sont pas prêtes à faire quelques sacrifices pour décarboner. Et je vous rappelle que réduire de 55% les émissions d'ici 2030 par rapport à 1990, ça va être un challenge absolument phénoménal dans les 8 prochaines années. On a fait la moitié du chemin en 30 ans. Il va falloir faire l'autre moitié du chemin en seulement 8 ans. Donc on est dans une situation très complexe.
Mais on a menti à la population en prétendant que la transition énergétique, c'était une chance formidable qui allait nous enrichir et créer des emplois.
Globalement, effectivement, ce n'est pas le cas. Effectivement, il va y avoir des emplois verts qui vont se créer, mais l'impact sur le pouvoir d'achat va être important. Et donc, il va y avoir des pertes d'emplois dans les secteurs bruns dans lesquels nous allons devoir licencier et trouver des solutions alternatives pour produire des biens et services qui sont aujourd'hui très carbonés et donc très coûteux du point de vue environnemental.
Christian Gollier, la réalité de la transition énergétique, est-ce que ce n'est pas plutôt ce qui nous attend cet hiver, c'est-à-dire des pénuries, des factures qui augmentent considérablement et des bénéfices écologiques qui ne se matérialiseront qu'à long terme ?
Oui, oui. Regardons concrètement la situation. L'Allemagne, par exemple, 55% du gaz allemand venait de Russie. Brusquement, les Allemands doivent se passer de ça. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que plein de secteurs économiques qui dépendaient de ce gaz russe vont devoir soit mettre la clé sous le paillasson, soit délocaliser leur production dans des pays où le gaz reste disponible, soit demander aux consommateurs de payer la facture. Donc ça va être très compliqué dans les mois à venir. Et il n'y a pas qu'en Allemagne. La France est confrontée, la France et les autres pays européens sont confrontés à une situation similaire. Le président de la République nous demande de réduire de 10% nos consommations d'énergie fossile dans les semaines à venir. Je ne sais pas très bien comment on va le faire.
Tout le monde, au fond, est conscient du dérèglement climatique et de ses causes. On est tous persuadés que le réchauffement se matérialise déjà ici et maintenant. On lui attribue à la fois la sécheresse estivale, l'ouragan Yann qui vient de dévaster les côtes de Floride. Mais notre principale préoccupation, dites-vous dans votre livre, ça reste notre pouvoir d'achat. Avant de nous demander quelle planète nous allons laisser à nos enfants, on veut d'abord les nourrir, nos enfants, leur mettre un toit sur la tête et leur payer un cartable. C'est humain, non ?
Oui, et bien sûr. Il y a un consensus sur l'origine humaine du changement climatique, mais il n'y a absolument aucun consensus sur comment réorganiser nos modes de vie, nos modes de production et la société en général pour affronter cette responsabilité envers les générations futures qui devient de jour en jour plus terrible, étant donné ce qu'on voit de l'évolution du climat. La réalité, c'est qu'effectivement, nous sommes confrontés, pour beaucoup d'entre nous, à des problématiques de fin du mois qui rendent difficile la mise en perspective de la problématique de très long terme, qui est celle de protéger l'environnement pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. C'est très compliqué de voir à très long terme lorsque vous avez des problématiques de très court terme, comment vous allez faire pour à la fois consommer et se nourrir et en même temps vous dire mais il faut aussi que mon mode de vie soit décarboné. C'est deux choses qui sont très compliquées dans des pas de temps qui sont complètement différents.
On fait passer, dites-vous, la fin du mois avant la fin du monde. Ça paraît grotesque dit comme ça, mais en même temps, je me dis, c'est normal. C'est normal de faire passer la fin du mois avant la fin du monde. C'est humain.
C'est d'autant plus humain que si vous voulez, quand vous faites un effort de décarbonation, vous en payez les conséquences, vous en payez les coûts. En général, ça coûte cher, ou en termes de budgétaire, mais aussi en termes de confort. Réduire le thermostat cet hiver, pour certaines personnes, c'est pénible en termes de confort. Utiliser des transports en commun plutôt que d'avoir une particulière, utiliser le vélo, voire même le vélo électrique, par rapport à sa voiture, quand il neige, quand il pleut, c'est quand même un coût, ce sont des coûts supplémentaires et une perte de bien-être. Et évidemment que demander ces efforts alors que l'essentiel des bénéfices, c'est pour l'humanité, mais ça fait appel à, soit à l'altruisme des gens, mais reconnaissons que ça ne va pas fort loin. Certaines personnes sont prêtes à faire des efforts, mais quand même, on voit bien que ça reste compliqué pour l'énorme majorité de la population. Et donc, il faut organiser, c'est le rôle de l'État de responsabiliser les gens, par exemple, à travers des mécanismes de tarification du carbone, comme on a mis en place en France il y a quelques années.
Au fond, on pourrait se dire que ne plus utiliser le gaz russe, notamment celui qui arrivait massivement par Nord Stream 1, Nord Stream 2 n'avait pas encore été mis en place, mais celui qui arrivait par Nord Stream 1, on pourrait se dire que c'est une bonne nouvelle, sauf qu'à la place, on va utiliser du charbon ou du gaz de schiste.
Alors, c'est une bonne nouvelle, effectivement, sauf que, effectivement, comme vous le dites, on va substituer du gaz naturel par du charbon qui émet deux fois plus de CO2 par kilowattheure produit. Hein. Donc on rend les choses encore plus terribles. D'un autre côté, effectivement, le renchérissement général des matières premières fossiles rend plus désirables les investissements dans des énergies renouvelables, dans les pompes à chaleur, etc. Mais ça, ces investissements-là, ils ne vont pas être faits tout de suite. Il va falloir plusieurs années pour, vous voyez ce qui se passe pour les centrales nucléaires, mais c'est vrai aussi pour les champs d'éolien marin, les champs éoliens terrestres, les panneaux photovoltaïques. Tout ça met beaucoup de temps pour ces investissements. Or, c'est toujours lui. C'est cet hiver qu'il faut réduire nos émissions de CO2. C'est cet hiver que nous devons réduire nos consommation de gaz naturel, d'électricité et de pétrole. Donc on a une vraie problématique de petits gestes. Hein. Il va falloir que tout ensemble, nous acceptions de faire des petits gestes qui, tout réunis, conduisent à faire 10% globalement de réduction d'énergie. C'est énorme.
On fait une pause, Christian Gollier, on se retrouve tout de suite après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Christian Gollier, le directeur général de la Toulouse School of Economics, qui publie Le climat après la fin du mois en poche chez Alpha. Partout, on a l'impression que la fiscalité écologique suscite des révoltes. On veut que ce soit les autres, au fond, qui fassent les sacrifices, que ce soit les autres qui paient. Alors les Américains, les Chinois, les propriétaires de jets privés, les riches en général, ou les entreprises, ou l'État. Tout le monde, sauf nous.
Cette guerre mondiale contre le changement climatique, elle ne pourra être gagnée que par une mobilisation générale de tous les acteurs économiques, les ménages, les entreprises, les États et au niveau de l'ensemble de la planète. Donc aucune personne ne devrait être préservée. Et évidemment, il faut essayer d'aller chercher parmi les myriades d'actions de décarbonation possibles, contrôlées par une myriade d'agents économiques, les efforts qui sont les moins sacrificiels, les moins coûteux pour atteindre l'objectif recherché. Et ça, la tarification du carbone, la taxation du carbone va effectivement produire une incitation pour réaliser les efforts qui ont un coût par tonne de CO2 évité qui est inférieur à cette taxe. Et donc, effectivement, normalement, ça devrait être un mécanisme qui va permettre d'atteindre l'objectif au moindre sacrifice pour la population. Néanmoins, c'est vrai que cette taxe révèle la réalité des sacrifices à demander aux ménages. Et quand, effectivement, on voit le prix de l'essence à la pompe augmenter de quelques centimes au 1er janvier parce que la taxe carbone augmente, eh bien ça c'est une démonstration explicite que la lutte contre le changement climatique va nécessiter des sacrifices. Or, on a vendu aux populations depuis une vingtaine d'années, au niveau politique en particulier, l'idée que la transition énergétique sera heureuse, qu'elle permettra de créer des millions d'emplois, comme vous le disiez tout à l'heure, de réduire la facture d'électricité. La réalité est évidemment tout autre et la taxation du carbone démontre ça de façon tellement explicite que l'acceptabilité sociale est problématique. Mais comprenez bien que les alternatives sont encore plus coûteuses. Si vous voulez, je prends un exemple. Quand le gouvernement français soutient le développement de panneaux photovoltaïques sur les toits, elle le fait à travers des subventions, à travers des prix garantis de prix de rachat du kilowattheure produit par ces panneaux photovoltaïques des ménages, à un prix qui est très élevé par rapport au coût de production électrique, par exemple des centrales nucléaires. Et donc ce surcoût, il est finalement quand même payés par les consommateurs. Par les consommateurs d'électricité qui voient dans leur facture d'électricité une taxe de participation à l'effort de développement de ces énergies renouvelables qui représente aujourd'hui 9 milliards d'euros collectés sur les factures d'électricité des ménages. Donc vous voyez que la taxe carbone rend effectivement très explicite les sacrifices demandés aux populations, mais les solutions alternatives sont tout aussi coûteuses et parfois beaucoup plus coûteuses, parce que d'ailleurs, le photovoltaïque en France a été très coûteux à développer depuis 10 ans.
On est tous d'accord, il faut que ce soit les pollueurs qui payent. Mais à l'échelle planétaire, les Français, même les Français des classes populaires, font partie des riches et donc des plus pollueurs.
Et oui, alors la France est plutôt un bon élève, hein, parce que ce qu'on peut faire, c'est comparer les émissions de CO2 par habitant et par an. Aux États-Unis, on est à 19 tonnes de CO2 par an et par habitant. En France, on est autour de 6 tonnes par personne et par année. Par exemple, en République démocratique du Congo, on est à 100 kilos par an et par personne. Donc vous voyez qu'il y a des très fortes différences. Ça veut dire qu'effectivement, il y a, et historiquement en plus, hein, l'Occident a une responsabilité très lourde dans les émissions de CO2 passées. Ceci dit, à une époque où on n'avait pas conscience qu'émettre du CO2 allait engendrer ce problème de changement climatique. Donc il y a effectivement un problème de justice climatique. Faut-il demander aux pays africains et aux Chinois qui ont finalement historiquement peu contribué à l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère à faire beaucoup d'efforts, alors que nous n'en faisons pas beaucoup, ou en particulier les Américains, nous faisons pas mal d'efforts. Ayez bien en tête que l'Union européenne est la seule région du monde qui a réduit ses émissions de CO2 par rapport à 1990. Il n'y a aucune autre région du monde qui a réduit ses émissions de CO2 depuis 1990.
Oui, il faut rappeler que le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère, il est là depuis 30 ans et en fait, c'est nous à l'époque qui l'envoyons, ce n'était pas les Chinois.
Voilà, les Chinois, ils sont maintenant les plus grands pollueurs au niveau de l'ensemble du pays depuis quelques années. Ils ont dépassé les États-Unis en termes de nombre de gigatonnes émis par le pays.
Alors vous dites qu'il faut établir un prix unique, universel du carbone. Tous les économistes de l'environnement semblent d'accord pour le fixer en plus à 50 euros la tonne. Chaque Français émettant en moyenne 6 tonnes par an, vous venez de dire, ça fait 300 euros, soit 25 euros par mois. Ça semble pas beaucoup. En quoi ça résoudrait le problème ?
Alors en fait, donc la taxe carbone est une incitation. Hein. C'est bien une méthode qui consiste à aligner les intérêts privés avec l'intérêt général. Quand vous émettez du CO2 et qu'il n'y a pas de tarification du carbone, vous ne tenez pas compte dans vos décisions d'émettre ce CO2 les conséquences dommageables pour autrui de cette pollution. En demandant aux pollueurs de payer pour le dommage qu'ils engendrent, vous faites en sorte que les pollueurs payent pour les victimes qu'ils vont engendrer, et donc ça va intégrer, vous allez forcer les gens à internaliser, à intégrer ces dommages dans leur décision d'émettre ou pas ce CO2. Donc ça, en termes d'incitation, c'est un bon système. On peut allier ce système d'incitation à un système de redistribution, parce que finalement, cette taxe carbone, elle engendre un revenu fiscal qui peut être utilisé pour compenser, en particulier les ménages les plus modestes, pour la perte de pouvoir d'achat qui sera engendrée par cette taxe carbone. Donc on peut à la fois lutter contre le changement climatique et en même temps réduire les inégalités par un mécanisme de taxe carbone. Ce qui n'est pas possible, par exemple, quand vous organisez les incitations, par exemple, à travers la subvention au solaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a pu bénéficier de cette manne de prix garantie sur les kilowattheures solaires, mais ce sont les gens qui sont propriétaires de leur toit et qui ont pu effectivement installer ces panneaux photovoltaïques sur leur toit. Ce n'est pas les locataires du HLM, ce sont les gens qui ont son propriétaire de maison. Donc, vous voyez qu'on a des vrais problèmes d'inégalité. On en parlait il y a quelques instants sur les problèmes internationaux, mais aussi à l'intérieur de la société française, une taxe carbone pose un problème de justice sociale parce que, en moyenne, hein, les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leurs revenus à leurs dépenses d'énergie. Et donc, quand vous augmentez le prix d'énergie, vous augmentez les inégalités sociales. Donc, néanmoins, la taxe carbone, si vous la redistribuez intelligemment, vous pouvez éliminer éliminer, voire renverser l'impact de cette taxe carbone sur les inégalités sociales de notre pays. Donc le problème, c'est que en 2015, quand on a instauré la taxe carbone en France, on n'a pas fait une redistribution. Et donc il faut, à mon avis, relancer la taxe carbone dans les années à venir, mais cette fois-ci, en n'utilisant pas le revenu fiscal pour augmenter le budget de l'État, mais pour redistribuer vers les ménages les plus modestes. Oui. Ceci étant dit, je voudrais vous dire que les 50 euros la tonne de CO2, ce sera insuffisant, parce que 50 euros la tonne de CO2, c'est estimé pour comme la valeur du dommage engendré par ce CO2. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on a un objectif de réduction de 55% d'ici 2030. Et si pour atteindre l'objectif de 55%, il faudra une taxe carbone beaucoup plus élevée. On l'estime aujourd'hui plutôt à 150-200 euros la tonne de CO2.
200 euros la tonne de CO2, ça veut dire 1200 euros par an et par Français.
Oui, que l'on peut redistribuer à nouveau. À nouveau, on peut redistribuer cette taxe vers les ménages les plus modestes. Donc c'est pas une dépense nette. C'est un signal prix qu'on envoie aux ménages en disant vous voulez mettre du CO2, vous engendrez un dommage considérable pour l'humanité et on vous force à l'intégrer dans vos choix en taxant tous les produits dont la fabrication a nécessité cette émission de CO2.
Pour en savoir plus, je renvoie à votre livre, Christian Gollier, Le climat après la fin du mois. C'est paru en poche chez Alpha.
Merci.
Et on se retrouve juste après une pause avec Charlène Biondi.